Et donc je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Alors puisque notre frère Philippe a été appelé un peu à la dernière minute, c'est un peu à la dernière minute aussi que j'ai dû me préparer pour cette prédication ce matin. C'est une prédication que j'ai déjà eu l'occasion de prêcher. Mais comme je dis des fois à mon épouse, ça nous arrive à nous, hein, souvent de manger les restes ou de refaire les mêmes recettes. Parce qu'on les aime et on les apprécie. Et moi, je n'ai jamais dit quoi que ce soit de contre le fait de reprêcher certains messages. Je sais que certains pasteurs, ils disent, ah non, il faut toujours quelque chose de nouveau. Mais parfois, on a aussi besoin de réentendre les choses. On a besoin d'être eh bien, interpellé à nouveau sur la parole de Dieu. Mais Exode, chapitre 14, et on va lire déjà juste les versets 13. 13 et 14 de ce passage, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, eh bien, gardez le silence. Gardez le silence. Alors, je ne peux pas m'empêcher de voir également la main du Seigneur dans les partages que nous avons eus ce matin avec le thème de cette prédication au sujet des épreuves, au sujet des difficultés, au sujet de notre confiance que nous devons avoir dans le Seigneur, dans son plan pour notre vie. On connaît tellement bien, hein, ce passage de Jacques, chapitre 1er, les versets 2 à 4, où Jacques nous dit de regarder comme un sujet de joie complète, hein, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a une chose qui est certaine dans la vie du croyant, c'est le fait que rien n'arrive par hasard. Nous ne croyons pas au hasard. Nous savons que Dieu a un plan pour notre vie. Il y a certes des circonstances dans notre vie qui arrivent, que nous ne pouvons pas empêcher, certains que nous pouvons prévenir, arrêter ces circonstances. Mais une chose est certaine, ce n'est jamais par hasard que dans notre vie, il y ait des difficultés, il y ait des épreuves, hein, il y ait des obstacles. L'un des aspects justement les plus difficiles probablement dans la vie d'un chrétien, c'est vraiment de comprendre et d'accepter que le fait d'être disciple de Christ ne va pas empêcher les épreuves, les difficultés. Non. On peut parfois, c'est vrai, se demander au cours des épreuves de notre vie, se poser des questions, et c'est des moments de questionnement par rapport à notre foi, par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à ses promesses. Pourquoi un Dieu aimant et bon permet-il les situations difficiles? La mort d'un enfant, la maladie, les blessures subies par nous-mêmes ou par des proches, les difficultés financières aussi de la vie, les inquiétudes, la peur. Pourquoi? Hein, je pense que si nous, hein, ceux qui sont présents ici, nous avons connu des difficultés et des épreuves, je sais que dans ma vie, c'est arrivé qu'il y ait ces moments où, face à une épreuve douloureuse, difficile, je me questionne. Non seulement sur la grâce de Dieu, sur sa miséricorde, sur sa bonté, parfois même voire jusqu'à son existence dans ces moments si difficiles. Sûrement, on penserait que si Dieu nous aime, il nous enlèverait de toutes ces difficultés. Après tout, le fait d'aimer ne signifie-t-il pas que Dieu veuille que notre vie soit facile et confortable? Non. Non. On vient de lire que dans Jacques que lorsque Dieu permet les épreuves dans notre vie, il nous rappelle l'objectif de ces épreuves. Que ça produise en nous la patience. La patience, est-ce là une caractéristique naturellement humaine? Non, c'est une caractéristique divine. Car si Dieu n'était pas patient avec nous, il y a longtemps que ce monde aurait été détruit et anéanti, n'est-ce pas? Mais cette patience, elle doit accomplir son œuvre en nous. Et l'objectif de la patience, c'est quoi? L'accomplissement, la perfection, que nous puissions ne faillir en rien. C'est-à-dire que cela a pour objectif de faire de nous des croyants fermes, des croyants qui s'appuient entièrement sur le Seigneur, mais toujours en se rappelant de cet objectif que la vie chrétienne, c'est de nous rendre semblables à Christ. La Bible nous enseigne clairement que Dieu nous aime, et je n'ai aucun doute à ce sujet-là. Dieu nous aime. Il veut notre bien. Et parfois, notre bien, ben il va devoir laisser les difficultés et les épreuves, parce que notre bien à nous, ben c'est de nous transformer, de nous modeler, de prendre cette pierre brute et de la tailler, de la cisailler à coups de marteau. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un sculpteur à l'œuvre. De prendre cette pierre qui est brute, qui ne ressemble à rien, et qui, au début, hein, il va y aller avec les gros coups de marteau. Et il va plus ou moins déjà donner une forme à son ouvrage. Et une fois que cette forme, elle est plus ou moins ce que lui veut qu'elle soit, il va prendre un marteau différent. Il va prendre des cisailles différentes. Et petit à petit, il va enlever de ce bloc de pierre des morceaux pour affiner cette image. Alors maintenez cette illustration-là et pensez à votre vie en Christ. Dieu, nous sommes comme ces blocs de pierre que Dieu veut sculpter à l'image de son Fils. Alors oui. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être enlevées de notre vie. Et oui, au début, ça ne va pas être facile. C'est des gros blocs qui vont devoir partir. Mais petit à petit, au fur et à mesure de notre vie chrétienne, de notre avancement avec Christ, eh bien, ce sont des petites choses, ici et là, où le Seigneur va peaufiner, affiner sa sculpture. Toutes choses concourt à notre bien. Toute chose, hein, Paul nous le rappelle dans son épître aux Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quand nous savons que l'objectif de Dieu dans notre vie, c'est de nous rendre semblables à Christ, et que pour nous rendre semblables à Christ, eh bien, il faut qu'il enlève ces choses de notre vie, eh bien oui, comme Jacques nous le dit, nous pouvons regarder comme un sujet de joie. Et notez bien, complète, une joie complète, hein, les diverses épreuves. Et il a bien fait de mettre ça au pluriel, les diverses épreuves. Parce que si nous en avons déjà eu au cours de notre vie, sachons-le, il y en aura encore. Et si nous comprenons l'objectif de Dieu, et si nous acceptons surtout l'objectif de Dieu dans notre vie, eh bien oui. Je vais regarder comme un sujet de joie le fait que Dieu, eh bien, il veut continuer son œuvre dans ma vie. Même si cela signifie d'avoir à passer par le feu des épreuves. Et donc, par conséquent, pour le croyant, toutes les épreuves, les difficultés, les tribulations ont un but divin. Acceptons donc les épreuves comme une nécessité de la vie chrétienne. Acceptons que Dieu veuille nous transformer. Il ne va pas le faire en un coup de baguette magique. Non, ça ne se produit pas comme ça. Ça serait trop facile. Un de même que on pourrait se dire, ça aurait été tellement bien qu'au moment de notre conversion, ça y est, on va auprès du Seigneur. Ça aurait été l'idéal, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a laissés ici avec des objectifs pour notre vie, de ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, mais aussi à travers notre vie. Et donc ce passage d'Exode 14, j'aimerais qu'on puisse eh bien, plonger nos regards dans ce passage d'Exode, parce qu'il nous révèle plusieurs aspects du pourquoi, du comment des épreuves. Et c'est ce que j'aimerais ce matin donc souligner ces vérités, afin que eh bien, nous puissions eh bien, avancer à travers les épreuves, avec la paix et la sérénité que Dieu nous donne, que Christ nous donne. Je vous donne ma paix, comme notre sœur l'a rappelé ce matin. Première chose que nous devons noter, c'est que effectivement, les épreuves font partie de la vie. Vous savez quoi? Les tuiles, les épreuves, les difficultés, les problèmes, ça n'arrive pas qu'aux chrétiens. Ça arrive à tout le monde. Mais nous avons cette notion que parce que nous sommes chrétiens, ça ne devrait pas arriver du tout. Mais le fait de la vie, c'est que nous sommes tous nés dans le péché, nous sommes pécheurs par nature, mais ce n'est que la grâce de Dieu qui a changé. Et elle a changé quoi? Elle a changé notre statut de condamné à pardonné. Mais après, voilà, on a encore des conséquences, n'est-ce pas, de notre nature pécheresse, et certains même conséquences des péchés que nous avons commis. Mais les épreuves font partie de la vie. Alors, relisons ensemble les 14 premiers versets de ce passage. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. » J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche arrière, en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. La situation ici du peuple d'Israël, c'est en fait très similaire à ce que nous avons connu déjà, on va dire spirituellement, par rapport au salut en Christ. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, pendant 400 ans, avait été esclave en Égypte. Pendant 400 ans, les Égyptiens ont profité d'eux. Pendant 400 ans, ils ont été la proie d'hommes qui ont profité d'eux. Ils étaient maltraités. Et Dieu les a délivrés de cet esclavage, avec la promesse d'une terre qui leur était promise, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce parallèle-là par rapport au fait que, voilà, avant ma conversion, j'étais esclave du péché, j'étais malmené par l'adversaire, j'étais sous son emprise. Mais l'évangile de Christ, ça a été de dire, viens à moi, voici ce que je te promets, je te promets aussi une terre promise, je te promets d'être dans ma présence pour l'éternité. Tout ce que Israël avait, c'était cette promesse. sans même forcément connaître quel était ce lieu en question. Oh, ils avaient probablement quelques idées de ce que c'était la vie autrefois hein, en Canaan pour leurs ancêtres. Tout comme nous, nous avons quelques idées de ce qu'est le ciel, de ce que c'est que d'être dans la présence de l'Éternel. Mais tout comme Israël, eh bien, il y a tout un parcours, il y a une traversée du désert, il y a tout un cheminement, toute une vie là, avant que nous puissions atteindre cette terre qui nous est promise, ce ciel qui nous est promis par la grâce de Dieu. Dieu ne nous a jamais promis une vie facile ici-bas. S'il nous a promis, c'est son aide. Le Christ lui-même, qui a eu une vie parfaite, l'excellence de sa vie ne peut pas être mise en doute, n'est-ce pas? Et pourtant, est-ce que nous pouvons dire et proclamer que la vie de Jésus-Christ, elle a été sans difficulté, sans problème, sans obstacle, sans qu'il y ait quoi que ce soit ou qui que ce soit qui lui en veuille? Non. À partir du moment où le Seigneur a commencé son ministère, ça a commencé déjà avec l'adversaire hein, qui l'a tenté. Ensuite, il y a eu les obstacles de la part des chefs religieux, des pharisiens, etc., des scribes. Il y a eu le rejet de son peuple et c'est allé jusqu'à sa mort, sa crucifixion, n'est-ce pas? Il a connu des peines. Il a connu les tristesses auxquelles nous pouvons aussi nous identifier, n'est-ce pas? Il a connu la mort d'un être cher. Hein, ce fameux verset, ah, c'est le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Lui aussi, il a connu la douleur de la mort d'un être cher. Il a connu le rejet, la haine, le mépris, l'ignominie. Par contre, il a subi, oui, des fardeaux et des angoisses qu'aucun de nous ne vivront jamais. Lorsqu'il a pris notre péché sur lui, nous ne connaîtrons jamais une telle douleur et une telle angoisse. Avez-vous déjà été rejeté par votre entourage du fait de votre foi? C'est possible pour certains. C'est le cas pour beaucoup de frères et sœurs en Christ aujourd'hui à travers le monde. Avez-vous été trahi par un proche à cause de votre foi? Ça a été le cas pour de nombreux chrétiens. Avez-vous injustement été arrêté, torturé à cause de votre message que vous prêchiez l'évangile autour de vous? Est-ce que vous avez pris sur vous la pénalité de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez été abandonné du Père à cause de cela? Rappelez-vous ce que le Seigneur lui-même avait dit hein, dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Nous sommes sur un chemin étroit. Et un chemin étroit, ce n'est jamais facile à marcher. J'ai déjà eu l'occasion, avec les camps, de marcher sur des chemins étroits lorsqu'on faisait ces randonnées en montagne. Il y a des passages étroits aussi. Je me rappelle d'une petite ruelle qui existe à Mantes-la-Jolie, hein, parce que j'ai passé mon adolescence à Mantes-la-Jolie. Il y a une toute petite ruelle. Il y a juste la place pour une personne de passer par cette ruelle. Cette semaine, on a eu l'occasion d'aller au musée de l'air et de l'espace et de rentrer dans le Concorde. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je voulais faire depuis longtemps, parce que j'aime beaucoup cet avion-là. J'ai toujours eu une fascination pour cet avion et de pouvoir monter dedans, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais après, c'est vrai que c'est un avion petit. Hein, pour un avion de ligne, c'est un avion petit. Hein, et que même, bon, ils avaient retiré hein, la plupart des rangées, mais ils avaient laissé au fond les rangées telles qu'elles étaient. On ne pouvait pas y accéder, mais on pouvait voir très bien que l'espace entre les sièges était à peu près ça. Hein, c'était pas grand-chose, à peu près 60 cm à tout casser, hein, où pratiquement seules les hôtesses pouvaient passer. Je me demandais comment elles passaient avec leurs chariots. Ils avaient des chariots spéciaux pour ça, mais c'était étroit. Et je me disais, mais aujourd'hui, avec le gabarit de beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient même pas prendre cet avion-là. De toute façon, il fallait payer très cher pour pouvoir aller dans cet avion-là. Mais nous sommes sur un chemin étroit. Et un chemin étroit n'est pas facile à marcher. Alors comment est-ce qu'on peut venir, nous, à cette idée, cette conclusion que notre vie en tant que chrétien, elle devrait être facile, n'est-ce pas? Il ne devrait y avoir aucune difficulté, aucune épreuve. Déjà, juste une question. Sachant que le Seigneur Jésus lui-même a connu les épreuves dans sa vie, sommes-nous plus importants, plus grands que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, de dire que moi, je ne mérite pas les épreuves? S'il y avait bien une personne qui ne méritait pas ce qu'il a subi, c'est bien Christ. La vérité de la parole de Dieu, c'est que les épreuves donc font partie intégrante de la vie en Christ. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Gloire sera rendue à Dieu parce qu'il nous a donné en Christ tous les moyens nécessaires pour réussir à surpasser les épreuves, à surpasser les difficultés et les diverses tentations qui nous assaillent au cours de notre vie. Cette vérité, ce n'est pas une vérité qui est spécifique au Nouveau Testament. Parce que la grâce de Dieu, même pour les croyants de l'Ancien Testament, la grâce était la même. Le peuple d'Israël, les divers serviteurs de l'Éternel au cours des siècles ont connu une pléiade d'épreuves. Mais la grâce de Dieu a été avec eux. Bien évidemment, si on pense à l'Ancien Testament, on va penser à Job. Hein, on cite souvent la vie de cet homme, ce qu'il a subi par rapport aux épreuves et aux difficultés de la vie. Mais on ne peut pas non plus négliger Joseph ou même Daniel, hein, qui sont d'illustres exemples des épreuves, mais aussi d'une foi réelle, d'une confiance en l'Éternel. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, ils ont maintenu cette foi et cette confiance en l'Éternel. Et c'est extraordinaire. Ce sont vraiment des exemples extraordinaires que Joseph et Daniel. Mais ici, dans Exode 14, nous voyons la manière. Excusez-moi. Nous voyons la manière. La gorge est un peu sèche ce matin, excusez-moi. Mais nous voyons donc la manière dont Dieu agit dans la vie de ses enfants. Exode 14 nous relate, oui, les difficultés du peuple d'Israël. Ils viennent de sortir d'Égypte. C'est une grande victoire. Et déjà après cette grande victoire, il y a une grande épreuve. Ça, c'est quelque chose aussi que on peut connaître dans notre vie. C'est que on a cette grande victoire dans un aspect de notre vie, par rapport à un péché ou quoi que ce soit. Et tout de suite après, l'adversaire, il continue. N'est-ce pas? Il continue à s'acharner. Ici, ces difficultés, notez-le bien, elles ont été voulues par Dieu. Ces épreuves, elles ont été voulues par Dieu. Ce que nous lisons, c'est que le cœur de Pharaon a été endurci par l'Éternel. Il faut bien comprendre la chose ici. C'est pas que Dieu, il ait forcé Pharaon à faire quelque chose de mauvais. Ce que Dieu a fait, c'est enlever son influence de la vie d'une personne et de le laisser aller dans le sens qu'il voulait. Le cœur de Pharaon, il était déjà endurci. Dieu avait laissé Pharaon suivre libre cours à son cœur corrompu. Juste avant. Il est question de ces fameuses 10 plaies. Il a fallu ces 10 plaies pour que Pharaon s'incline finalement à la volonté de Dieu. Et c'était vraiment quasiment presque à contre-cœur, n'est-ce pas? Déjà en cela, ce fut une période d'incertitude et d'épreuve pour Moïse, pour Israël. Mais déjà là, nous devons aussi noter la grâce de Dieu dans ces épreuves. Parce que voilà, sur les 10 plaies qui ont affecté l'Égypte, les 7 dernières n'ont affecté Israël en rien du tout. Ils n'ont pas été touchés par cela. Lorsque finalement Pharaon s'incline devant la puissance de Dieu, le peuple d'Israël est enfin libre. Mais voilà, à la sortie d'Égypte, eh bien, ce n'était pas tout de suite le repos. Ce n'était pas un voyage de tout repos pour le peuple, pour Moïse lui-même, parce qu'ils sont partis de Ramsès, Sukkot, Etan, et finalement à Pi-Hahiroth, plus de 350 kilomètres, un groupe de environ 600 000 personnes. Alors c'est vrai que là, au départ, j'imagine bien la scène, ils sont heureux, ils sont contents de sortir, d'être enfin libres, de pouvoir aller vers cette terre promise. Et c'est là où Pharaon va changer donc d'avis et va partir à la poursuite des Hébreux, au verset 5. Et alors que, voilà, le peuple d'Israël croyait qu'ils étaient sortis de l'affliction de l'esclavage, leur esprit de liberté est réduit à néant à la vue de la multitude de l'armée de Pharaon qui est à leur trousse. Désespoir, incrédulité, c'est ce que nous voyons dans les versets 10 à 12. N'est-ce pas? Déjà 10, on voit donc Pharaon approcher, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et que firent-ils? Ils crièrent à l'Éternel. Oh, ça ne nous dit pas ce qu'ils ont crié à l'Éternel, n'est-ce pas? Mais vraisemblablement, tout comme nous, lorsque nous sommes dans les épreuves, la chose que Israël a probablement crié à l'Éternel, c'est « Mais pourquoi ?» Tu nous as sortis de ce pays, mais pourquoi? Il y a quelque part ici, oui, un bon réflexe, parce qu'il se tourne vers l'Éternel, mais pas pour trouver la solution. Et c'est quand même effroyable que ce peuple qui a vu la main puissante de Dieu agir à travers ses 10 plaies, et sa protection sur eux pendant ces plaies, de la liberté qu'il leur a accordée, de maintenant se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Ils ont vite oublié leur situation préalable. Verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous laissant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Peut-être est-ce arrivé dans votre vie chrétienne, à un moment donné, que vous vous disiez face aux épreuves que ma vie auparavant, elle était mieux. Alors je vous appelle tout de suite à changer de raisonnement. Parce que ça, c'est un raisonnement qui est illogique. Complètement illogique. Parce que notre situation avant la grâce de Dieu et le salut en Christ, c'était quoi? La perdition éternelle. La perdition éternelle. Les épreuves que nous traversons au cours de notre vie, elles sont temporaires. Temporaires. De les comparer à l'éternité dans la présence et dans la gloire du Seigneur, ça s'efface. On ne peut même pas comparer. Il n'y a rien que l'on puisse même utiliser dans ce que nous connaissons de ce monde pour comparer la différence entre ces moments de difficulté et la paix éternelle. D'un côté, les Égyptiens. De l'autre côté, la mer Rouge, Israël est encerclé, coincé, il n'y a pas d'issue visible, possible. Une situation désespérée. Dans leur esprit, tout est terminé. Voilà, nous allons mourir au désert. On ne peut pas s'échapper. Là, il y a la mer, on ne peut pas traverser. Là, il y a les Égyptiens, ils vont nous trucider. On est mort. Le problème le plus sérieux auquel Moïse a dû faire face ici, ce n'est pas les Égyptiens, c'est la réaction du peuple. L'ennemi derrière lui et autour de lui un peuple incrédule et affolé. Je crois que de tout le peuple d'Israël, c'est lui qui avait la situation la plus mauvaise, n'est-ce pas? Et pourtant, ça n'a pas été le cas. On peut se poser la question, comment Israël pouvait donc réagir de cette manière? Dieu n'avait-il pas déjà fait subir 10 fléaux aux Égyptiens? Israël n'avait-elle pas vu la grandeur et la puissance de Dieu? Mais voilà, malgré les siècles qui nous séparent des épreuves de Moïse et d'Israël d'avec nous, bien nous pouvons sans problème même nous identifier à eux dans ce sens-là, parce que oui, quand vient des difficultés, quelle est notre réaction? Bien, on va râler et on va se plaindre. On ne va pas accepter qu'il y ait des difficultés et des épreuves dans notre vie. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous recherchons tous donc à en être délivrés. Combien de fois nous avons même agi comme Israël dans des situations bien moins dangereuses? Combien de fois avons-nous regardé à l'épreuve et comme Israël, nous avons laissé la situation nous effrayer et presque même nous faire regretter notre vie passée? Combien de fois avons-nous donc blâmé le Seigneur pour cette situation, ou même blâmé les conducteurs spirituels qui enseignent la parole de Dieu à ce sujet? Si les épreuves font partie de la vie, c'est une vérité, c'est une réalité, mais il y en a une également que nous devons garder à l'esprit et dans notre cœur, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et la difficulté pour nous, c'est que, voilà, nous ne voulons pas lâcher prise du contrôle de notre vie, n'est-ce pas? Nous voulons contrôler les situations, nous voulons que tout aille bien, nous voulons que tout aille dans notre sens. Je crois qu'une des choses aussi qui m'a beaucoup aidé, on va dire, dans ma vie, dans ce sens-là, c'est quand on commence à faire du bricolage, croyez-moi, vous allez apprendre la patience. Vous allez apprendre les difficultés, n'est-ce pas? On a un plan, on se dit, ça va être comme ça, mais non, il y a toujours quelque chose qui vient. Ah, t'avais un plan, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Pensez-y. L'exemple de Joseph dont nous avons parlé, dans Genèse chapitre 45, versets 7 à 8, nous lisons « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Joseph avait finalement compris sa situation. Il a compris que voilà ce que Dieu a permis dans sa vie, d'être malmené, maltraité par ses frères, vendu comme esclave, ensuite emprisonné injustement. C'était que pour finalement, il puisse se retrouver dans cette situation où il est le numéro 2 en Égypte et il va pouvoir sauver sa famille. Le fait est que si Dieu nous avait dit à Joseph, « Joseph, voilà, je vais te faire passer par toutes ces choses-là dans ta vie pour que tu puisses venir au secours de ta famille. » Est-ce qu'on est prêt à, avoir accepté cela? Est-ce que nous serions prêts à accepter, voilà, Jérémy, tu vas devoir avoir telle infirmité ou telle maladie, tu vas perdre telle personne chère dans ta vie, etc., pour que je puisse faire ceci? Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Je crois que des fois, c'est bien que Dieu ne nous dise pas tout de suite quel est son plan et qu'il nous fasse passer par ces épreuves pour nous affiner, pour nous peaufiner. Et il dit donc ici, Joseph, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu! Vous imaginez un peu? C'est Dieu! Il m'a établi père de Pharaon, maître en toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Notre sœur a cité dans ce passage, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » dans Jean chapitre 14. Et le Seigneur dit, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Le monde, il donne souvent... je te le donne, ah mais j'en ai tu me le repasses, j'en ai besoin. On a une situation, on a eu des situations nous aussi, même par rapport au système des impôts aux États-Unis, où c'est un système, où vous avez un système pour chaque État, et vous avez un système fédéral, donc vous avez deux systèmes d'impôts qui... parfois travaillent bien ensemble et parfois pas du tout. Et par exemple, dans le système fédéral, on a reçu comme des allocations familiales. Pour le système de l'État de l'Illinois, ils ont dit « Ah, c'est un revenu !» Et ils nous ont imposé là-dessus. Alors c'est cette idée « Je te donne, mais je reprends. » Ça, c'est le monde. Mais Dieu, Dieu donne. La paix que Dieu donne, c'est une paix réelle. Et c'est pour ça que nous ne devons nous inquiéter de rien et que nous devons aller vers notre Père, lui faire connaître par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, nos besoins. Et Paul rajoute même dans ce passage de Philippiens 4, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ce que notre sœur a dit, comment est-ce qu'elle peut avoir la paix dans cette situation-là? Les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Nous devons donc nous attendre, oui, aux épreuves, aux difficultés, car elles font partie de notre identité chrétienne. Si nous sommes disciples de Christ et nous voulons être comme Christ, nous voulons ressembler à Christ, il faut accepter que Dieu, eh bien, par les épreuves, eh bien, il nous change à l'image de son Fils. Plus loin, au chapitre 16 de l'évangile de Jean, le Seigneur nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ». Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire qu'au milieu de l'épreuve, nos regards doivent se porter sur le Seigneur. Lui faire part de nos besoins, de nos difficultés, hein, par des prières, par des supplications. Mais aussi, de prendre courage en lui. Parce que lui, il est vainqueur. Et cette victoire, il nous l'a déjà accordé. La deuxième chose que nous devons noter aussi dans ce passage d'Exode, chapitre 14, c'est le fait que les épreuves nous mènent à Dieu. Et on pourrait même rajouter, les épreuves nous ramènent à Dieu, pour certains. Dans les versets 15 à 28, nous voyons que la crainte, la frayeur du peuple d'Israël les avait fait, certes, se tourner hein, vers l'Éternel, mais c'était pour se plaindre, parce qu'ils ont eu peur. Et ils ont vite cherché un interlocuteur visible, un bouc émissaire, et n'ont pas cherché une solution. Vous avez noté ça? Ils n'ont pas cherché une solution. Ils se sont plaints. En temps d'épreuves et de difficultés, nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons chercher en Dieu la solution. C'est pas « Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ça dans ma vie ?» Et Dieu, voilà, moi je suis à mes limites. Et je sais que toi, tu es tout puissant. Et donc c'est vers toi que je me tourne, comme nous l'avons chanté ce matin. Parce que tu es le tout puissant. Parce que tu es celui qui est capable de m'aider à traverser ces épreuves. Oui, tu peux les ôter. Mais tu peux aussi me donner la force et les moyens de traverser ces épreuves. Et donc Moïse s'empresse donc de répondre aux doutes du peuple concernant le périple dans lequel ils se trouvaient tous. La réaction à observer dans les épreuves, elle est justement détaillée dans ces versets 13 et 14 que nous avons déjà lus. Ne craignez rien. Restez en place. Et voyez comment l'Éternel va agir. Gardez le silence. Arrêtez de vous plaindre. L'Éternel combattra pour vous. Est-ce là donc notre réflexe en temps d'épreuves et de difficultés? Nous n'avons pas à craindre les épreuves. Jacques, il nous dit, regardez-les comme un sujet de joie complète. Il n'y a pas de peur à avoir. Considérez la vie passée sans Christ comme étant meilleure. Comme je l'ai dit, elle est illogique. Tenir ferme, rester en place, être patience. Parce que la patience, c'est quoi? La patience, c'est une déclaration tangible de notre foi en Dieu. La patience, c'est d'accepter, moi je n'y peux rien, Dieu y peut et il fera ce qu'il veut. Et je vais attendre qu'il agisse. Les plaintes, les murmures n'ont jamais changé la situation de qui que ce soit. Seule la main puissante de Dieu peut nous délivrer, oui, mais le plus souvent, ce que Dieu va faire, c'est de nous laisser dans ses épreuves pour, encore une fois, nous peaufiner, nous travailler, attendre de voir si nous allons avoir le réflexe, eh bien, de prendre en main déjà les armes spirituelles qu'il nous a confiées. De voir si, effectivement, nous allons, eh bien, avoir la patience de le laisser agir. Ça, je le vois souvent avec nos enfants. Hein, ils vont vouloir faire les choses tout de suite. Ils n'ont pas la patience. Ils veulent tout de suite que la situation elle change. On est tous comme ça. Mais voilà, Dieu, il veut que nous soyons patients. Dieu, il est là, il a toujours été là, tout comme il a été pour le peuple d'Israël, avec, ici, de manière visible, cette colonne hein, de fumée, hein, le jour, et cette colonne de feu, la nuit. La présence visible du Seigneur. Ah oui, ça c'était déjà, et ça aurait dû être pour tout le peuple d'Israël, eh bien, le moyen hein, d'avoir cette confiance en Dieu, que Dieu il est là, Dieu il est présent, certainement il va nous délivrer. Malheureusement, ça n'a pas été leur réaction. Tout comme nous, nous savons que ben, dans notre vie, le Saint-Esprit, il est présent. Dieu est constamment là avec nous. Cette nuée a constitué un rempart visible pour Israël. Elle a stoppé net la progression des Égyptiens. Notez que la nuit, cette nuée éclairait Israël. Mais regardez au verset 20. Verset 20, il est dit « Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » Là, Israël a vu une action tangible aussi de la grâce de Dieu. Mais vous imaginez ça? Déjà avec les 10 plaies, ils ont vu la puissance de Dieu. Mais là, de voir ce miracle, bah, comment ça se fait que nous, ça nous éclaire, mais ça n'éclaire pas les Égyptiens? Seul Dieu est capable de ça. Mais voilà, cette nuée qui éclaire Israël, qui a jeté les Égyptiens dans les ténèbres, a montré et déclaré la présence de Dieu. Notez bien que Dieu les a laissés quand même poireauter toute la nuit. Ils ont eu toute la nuit pour changer d'attitude. Toute la nuit pour... Bah oui, maintenant, Dieu, il est présent. Et il nous éclaire, nous, il n'éclaire plus pas les Égyptiens. Dieu, il va nous délivrer, certainement. Toute la nuit, Dieu n'a pas immédiatement délivré son peuple, mais il leur a donné un espoir. Il leur a donné quelque chose de concret, comme quoi il est là et ça va aller. Dieu ne va pas forcément nous délivrer de notre épreuve tout de suite, mais il va nous laisser entrevoir la délivrance. Et c'est pour cela que pour nous chrétiens, il est tellement important de regarder au Seigneur, mais de regarder aussi voilà ce qui nous attend, d'être dans la présence de Christ, d'être au ciel. Et que finalement, bien comme Paul, un peu importe si je meurs, c'est ce qu'il y a de meilleur parce que je suis auprès du Seigneur. Mais s'il me permet d'être ici, ben, je suis là pour son service. Christ est ma vie, mourir m'est un gain, n'est-ce pas? Et est-ce que ça, c'est la façon dont nous voyons justement notre vie ici-bas? Si tel est le cas, ben, les épreuves, ça ne devrait même pas nous embêter. Notez également que c'est ici vraiment le premier miracle de Dieu pour son peuple en dehors d'Égypte. Tout comme Israël était donc guidé et protégé par Dieu à travers cette nuée, nous aussi nous pouvons être certains d'être dans cette main protectrice de l'Éternel, d'être sous son aile. Dieu est là et il est présent et il nous le montre. Il nous rappelle aussi dans sa parole que nous sommes attachés à lui, nous sommes attachés au cep, que rien ne peut nous ravir de la main de l'Éternel. Rien ne peut nous enlever de l'amour de Dieu pour nous. Rien. Est-ce que nous voyons Dieu comme ce rempart? Ou nous le voyons-nous comme le responsable de notre situation? Il est un rempart. Dieu seul délivre. Et il peut, oui, le faire de manière miraculeuse, parfois de manière inattendue, parfois même des situations plutôt banales. Mais immanquablement, les épreuves ont pour objectif de nous mener à Dieu. de nous faire changer de perspective où nous voyons notre vie, notre volonté. Ah, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Ça, c'est parce que Dieu, il veut que. Hé, Jérémie, là, tourne par ici. Regarde. Dieu permet ces épreuves pour nous mener à lui. Troisième chose aussi à noter dans ce passage, c'est que les épreuves vont donc élargir notre connaissance de Dieu. À travers les épreuves, eh bien, Dieu nous transforme à l'image de Christ, mais aussi il nous fait connaître davantage qui il est, ce qu'il est capable pour nous. La question de savoir pourquoi est-ce que Dieu permet tout cela? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé tout simplement Israël continuer son chemin jusqu'à la terre promise? Il y avait déjà plusieurs raisons qui nous sont données. Déjà, au début, hein, du chapitre 14, j'endurcirai au verset 4 le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Il y a une utilité à cela, la gloire de l'Éternel. Une gloire qui est juste, il mérite cette gloire. Mais ce genre de raisonnement, hein, de se dire que ben, Dieu aurait pu empêcher, Dieu aurait pu hein, faire en sorte que tout se passe bien, c'est ce que nous pensons souvent. D'autant plus qu'en lisant ce passage, nous voyons encore une fois que Dieu est celui qui a instigé cette épreuve, qui a fait en sorte que cette épreuve se déroule. Hein, verset 4, verset 8, verset 17, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Notre question de pourquoi Dieu permet-il cela, pourquoi est-ce que ça m'arrive, doit se transformer dans notre vie en j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. J'ai hâte de voir comment je vais pouvoir être au service de l'Éternel, comment il va utiliser ma vie pour sa gloire. Hein, la réponse de Moïse au verset 13 nous rappelle que quelle doit être notre attitude. Laissez Dieu agir. Et vous verrez, vous allez regarder, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Une attitude de courage, ne craignez rien, de calme, d'apaisement, restez en place, une attitude d'observation, hein, regardez la délivrance, une attitude de confiance également, hein, sur la base des promesses de Dieu. Vous ne les verrez plus, ces Égyptiens, vous ne serez plus esclaves de ce pays. Une attitude de recul et de confiance, l'Éternel combattra pour vous, et finalement, cette attitude de silence. Arrêtez de vous plaindre et laissez Dieu agir. Nous devons comprendre et accepter que nos épreuves sont donc utiles et bénéfiques. Dieu a toujours un plan. Son plan pour les Égyptiens, comme j'ai dit, verset 4, même verset 18, faire éclater sa gloire. Verset 4 et 18, pour aussi se faire connaître. Et verset 25, pour qu'ils reconnaissent la puissante main de Dieu. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Non seulement c'est devenu une réalité pour Israël que Dieu est présent et que l'Éternel va combattre pour eux, mais c'est aussi la réalité pour les ennemis. L'Éternel est avec eux. On ne va rien pouvoir faire. Son plan pour Israël, c'est qu'ils puissent voir la main puissante de Dieu, pour qu'ils apprennent aussi à le craindre. Rappelez-vous, pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Pendant 400 ans, on n'a aucune information de ce qu'ils avaient comme connaissance au sujet de Dieu. Ils avaient vraisemblablement besoin d'apprendre qui est Dieu. Ils ont déjà vu par les 10 plaies, et là ils sont en train de le voir parce que Dieu permet cette épreuve et Dieu apporte la délivrance. Et ils ont appris donc à craindre Dieu à travers cela. Et la crainte de Dieu, hein, c'est pas juste ah j'ai une peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, la crainte de Dieu, c'est il y a cette idée d'être, j'ai le mot anglais qui me vient. Oh, on est complètement époustouflé de la grandeur de Dieu. Et cette grandeur, elle nous amène à nous humilier. Cette grandeur, elle nous amène à respecter. Il y a cet aspect de la crainte, hein, qui existe. Mais voilà, cela faisait plus de 400 ans qu'Israël était en Égypte, qui n'avait probablement aucune information, si peu d'informations sur le Dieu de Jacob. Dieu a toujours une bonne raison, donc, pour nous faire passer par les épreuves. Dans le Deutéronome, chapitre 4 et verset 33, il est écrit: Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves? Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats? À main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Quel est l'objectif? Afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Ils étaient en Égypte pendant 400 ans, un pays d'idolâtrie, un pays où il y avait une multitude de divinités, n'est-ce pas? Et ils ont pu voir la puissance de Dieu face à ces prétendues divinités, à travers les plaies. Ils ont vu la puissance de Dieu à travers cette nuée qui, le soir, éclairait seulement le peuple d'Israël et gardait les Égyptiens dans les ténèbres. Et ceci afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. On pense peut-être, après plusieurs années de vie chrétienne, connaître Dieu. Ça, c'est de l'arrogance. La vérité, c'est que nous avons toujours besoin d'en apprendre davantage sur Dieu et puis aussi sur nous-mêmes. Les épreuves donc que Dieu envoie ou qu'il permet, bien que douloureuses, lourdes, pénibles, immenses à nos yeux, infranchissables, comme cette mer en face du peuple d'Israël, ben Dieu est capable. Et il a montré d'une manière extraordinaire. Vous avez noté aussi que pendant toute cette nuit-là, où il y avait cette colonne de feu qui éclairait Israël, mais aussi pendant toute la nuit, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé. Alors on a toujours l'idée, parce qu'on a vu, tous vu probablement ce film, hein, des 10 commandements, là, avec Charlton Heston, où il vient avec son bâton et puis la mer qui s'ouvre comme ça. Mais en fait, toute la nuit, le vent a soufflé pour assécher la mer, pour permettre le passage. Ça n'a pas été tout de suite. Ça a pris toute la nuit. Ce n'est pas tout de suite que Dieu va donner la délivrance. Il va falloir être patient. Mais pendant toute cette patience, on peut voir Dieu agir. Et on sait que Dieu agit. Les épreuves, donc, que Dieu permet, même si elles sont immenses à nos yeux, nous avons la certitude de ce que Dieu a déjà fait pour son peuple à travers les siècles et qu'il continue de faire pour nous aussi, croyants aujourd'hui. Dieu agit. Il nous aime tendrement comme un père. Rappelez-vous que la vie chrétienne, c'est pas cette vie paisible que beaucoup cherchent à vendre en disant venez à Christ et tout ira bien. Non. Venez à Christ et vous serez sauvés pour l'éternité. Et avec cela, vous aurez toute son aide pour traverser les difficultés. Parce que Christ lui-même avait dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, que je renonce à cette paix que j'ai, que je cherche, moi je veux que les choses soient bien parfaites dans ma vie, renonce à toi-même. Et qui se charge de sa croix. Est-ce que la croix, c'est l'image de quelque chose de facile à porter? Est-ce que c'est l'image de, ah bah tiens, moi dans ma vie pour objectif, je vais porter une croix. Mais pas celle qu'on met autour du cou, là, pour certains. Hein? Mais qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour conclure, juste un dernier passage. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Après que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il ait donné cette flopée d'exemples d'hommes, de femmes qui ont vécu par la foi et comment Dieu a agi dans leur vie et pour eux, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, C'est-à-dire que, voilà, on a l'exemple de ceux qui ont vécu des choses aussi, dans sa parole, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ils disent, cette si grande nuée de témoins, donc rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, c'est ce qu'il a fait. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parce que voilà, au milieu des épreuves, ça c'est ce que l'adversaire aussi il veut. Dieu permet les épreuves, mais l'adversaire il est là aussi pour en profiter. Et il cherche, comme il a voulu le faire avec Job, eh bien le faire trébucher et le faire rejeter Dieu. Parce qu'au milieu des épreuves, oui, ben, nous... sentiments humains, nos émotions, notre réflexion même humaine, ça va être « pourquoi ça m'arrive ? C'est pas juste. » Et avec les difficultés, on peut avoir eh bien, cette lassitude et cette âme découragée que malheureusement beaucoup de chrétiens ont connu, mais qui ont choisi de se laisser engloutir par cela, plutôt que de considérer un cette nuée de témoins où nous avons vu Dieu agir, Dieu donner la victoire, Dieu être glorifié, mais aussi de considérer la vie de Christ, ce que lui, il a accepté de subir pour que nous puissions être pardonnés, pas simplement pardonnés, mais aussi avec ce désir, cette volonté de Dieu de nous transformer à l'image de son Fils. Quelle que soit donc la situation que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit la nature des épreuves que nous traversons, rappelez-vous celui qui permet les épreuves, rappelez-vous des raisons des épreuves. Elles font partie de la vie, font partie de la vie chrétienne, nous n'en sommes pas exemptés. Elles ont pour objectif de nous mener à Dieu. Il ne veut pas que nous nous plaignions, mais il veut que nous nous confions en lui. Elles élargissent notre connaissance de Dieu, de Christ, de son plan pour notre vie. Comme Joseph, pendant toutes ces années. Pourquoi tout ça? Et c'est que des années plus tard, finalement, maintenant je sais. Je sais que ce n'est pas vous. C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis cela pour que je puisse vous aider. Est-ce que nous sommes prêts même à cette éventualité-là que Dieu permette des épreuves dans notre vie, que nous connaissions ces difficultés, ces épreuves pour la délivrance d'une autre personne? Elles élargissent donc notre connaissance de Dieu et de son plan pour notre vie. Donc oui, comme Moïse le dit au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Faites confiance. Même si les épreuves peuvent durer un long moment, parfois de longues années, rappelons-nous que notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît que pour un peu de temps. L'éternité dans la joie et la félicité où il n'y a plus de tristesse, plus de douleur, aucune larme. Qu'est-ce que cela, ici, cette semaine, ce jour, ou ce mois, ou ces années d'épreuves? Une vapeur.